Radio 1, Territorial 2018. Les grands débats.
Bienvenue dans les grands débats sur Radio 1 avec Antoine Samoyot et ses invités. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Thierry. On reprend l'antenne donc avec notre deuxième rendez-vous politique des territoriales ce midi. Les grands débats de Radio 1 et Thierry FM. Je vous le disais il y a quelques minutes, chaque vendredi jusqu'au premier tour, deux représentants des 6 listes en lice pour les territoriales viennent donc défendre leur programme. Et ce midi, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Lévy-Agami, élue à l'Assemblée et candidate sur la liste du Tahoeraa. Bonjour.
Yorana.
Et face à vous donc, Nui Haulore, sénateur, également élu à l'Assemblée et candidat sur la liste du Tapura. Bonjour.
Yavana.
Alors avant qu'on démarre, je vais vous donner 30 secondes à chacun. On va commencer avec Sandra Lévy-Agami pour présenter un peu les grandes ambitions de votre parti pour ces élections.
Alors nous avons constaté que 55% de la population, notamment de Tahiti et Moorea, vit sous le seuil de pauvreté. Et partant de là, nous avons décidé de mettre en place des mesures d'urgence, 12 mesures d'urgence, en attendant de pouvoir effectivement démarrer les grands projets avec Mahana Beach, les grands chantiers et donner de l'emploi durable, c'est-à-dire des CDI aux Polynésiens. De façon massive pour inverser la courbe du chômage de façon significative.
Oui, vous l'aurez le mot d'ordre d'Edouard Fritch, et donc continuons ensemble.
Ben, on est à quelques jours d'une élection qui est très importante pour l'avenir de la Polynésie. Il faut avoir de la mémoire, parfois se souvenir qu'il y a dix ans, nous avons plongé dans une instabilité qui nous a coûté en emploi, qui nous a coûté en détresse sociale. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, lorsque la nouvelle mandature a été mise en place, notre pays était au bord de la faillite. On a une situation aujourd'hui qui est nettement meilleure. Tous les clignotants économiques sont au vert. Alors c'est vrai que tous les problèmes ne sont pas réglés, mais nous disons une chose, ayant de la mémoire et évitons de replonger dans l'instabilité qui a coûté beaucoup à la Polynésie.
Là, je rebondis sur ce que vous dites. Pourtant, on est dans le cadre d'une élection. Si aujourd'hui il y a un changement politique, ce sera pas forcément de l'instabilité. Ce sera une élection qui sera intervenue dans le jeu démocratique tel qu'il est normal, en fait.
Bah, c'est une élection, bien évidemment. Chacun se présente. Mais encore une fois, quand on entend le programme des uns et des autres, finalement, d'un côté, on a une proposition d'indépendance, même si on n'utilise plus le terme, on parle de souveraineté, sans aucune indication sur un vrai programme économique, une vraie construction sociale. Et de l'autre côté, du côté du Tahoeraa, j'ai l'impression qu'on sort les vieilles ficelles avec le transport gratuit, avec 50 000 francs pour les femmes au foyer. Finalement, c'est la distribution gratuite de tous les bénéfices que notre pays a tirés de ces 5 années d'efforts qui nous ont permis de remettre la situation de la Polynésie, remettre la Polynésie à flot.
Alors justement, on va commencer en parlant des ficelles, si vous voulez, en tout cas du programme. C'était ma première question justement pour vous, Sandra Lévy-Agami. Vous proposez donc 12 mesures d'urgence et puis 3 grands chantiers, donc l'emploi, le logement et la famille pour le Tahoeraa. Donc dans ces 12 mesures d'urgence, il y a de la cantine gratuite, les trucks à 100 francs, internet à 1000 francs, le FIP augmenté à 20%. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous avez travaillé sur le financement de ces mesures d'urgence?
Alors, tout d'abord, je voudrais rassurer les Polynésiens. La prime majoritaire qui est attribuée devrait permettre de dégager une majorité stable. C'est ce qui aurait dû se passer en 2013. Malheureusement, les élus entre eux en ont décidé autrement en cours de route. Cette fois-ci, nous avons choisi des personnes en qui nous pouvons avoir confiance. Et il est clair qu'avec la prime majoritaire, on va pouvoir dégager entre 33 et 38 sièges. Et bien évidemment, je voudrais revenir sur cette question d'alliance avec le Tavini. Il en est hors de question puisque, de toute façon, la prime majoritaire donnera la majorité absolue à un groupe. Et nous souhaitons que ce soit au nôtre. Pour revenir sur le financement, vous savez, nous avons travaillé vraiment d'arrache-pied en 2013 quand nous sommes revenus au pouvoir. Et nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés à cette époque Nui Haulore, qui a vraiment fait un travail énorme pour le redressement des comptes publics, qui l'a poursuivi pendant un moment aux côtés d'Edouard Fritch. Bon, malheureusement, je dis malheureusement pour les Polynésiens, le portefeuille était confié à quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, le redressement des finances publiques nous permet aujourd'hui justement de réorienter les dépenses vers des priorités comme celle des 12 mesures. Donc on a évalué ces 12 mesures d'urgence à 20 milliards de francs. On a un budget le budget de la Polynésie française, c'est à peu près 160 milliards de francs. Donc, je pense que tout le monde a bien compris qu'on avait largement les moyens de financer ce type d'opération dans la mesure où d'autres opérations seront abandonnées.
Louis Hubleret, vous aviez les cordons de la bourse, justement, c'est vrai, il y a quelques années. Est-ce que, pour vous, c'est réalisable, c'est réaliste, en tout cas, ces 12 mesures d'urgence, c'est finançable?
Non, moi, je ne vais pas aller dans le détail du financement de chacune de ces mesures. Madame Lévy-Agami défend son programme et c'est tout à fait normal. Là, quand j'ai entendu toutes ces mesures, moi, j'ai l'impression, et c'est le terme que j'ai utilisé, quand j'utilise les mêmes vieilles ficelles. Il y a un vrai problème de dépendance d'une partie de la population aux politiques. On veut changer cette façon de faire les choses. On veut, et c'est ce qui a été mis en œuvre depuis quelques années, réduire les droits sur un certain nombre de produits, réduire le niveau de l'impôt et faire en sorte que les initiatives naissent. Et je ne pense pas que ce soit en donnant de l'argent ici ou là qu'on va arriver à poursuivre cette action de redressement que Madame Lévy-Agami a saluée. Je pense qu'il faut aller vers davantage de responsabilité. Il faut faire confiance dans les Polynésiens. Il faut aider ceux qui sont le plus en difficulté. Il faut permettre aux entreprises de mieux fonctionner, pas leur donner des subventions à tour de bras. Et je pense que les résultats que nous obtenons depuis quelque temps, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut des missions d'outre-mer, c'est l'ISPF, ce sont tous les organismes sérieux qui montrent que les clignotants économiques sont ouverts. Mais on n'a pas tout réglé pour autant. C'est vrai qu'une partie de la population est en difficulté sociale et on le voit quand on se promène à Papeete. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, dans le cadre de cette prochaine mandature, faire en sorte que le sujet social soit le sujet prioritaire. Et s'agissant du sujet des sans-domicile fixe, nous proposons non pas de mettre à leur disposition uniquement un hébergement, mais de les accompagner dans la réinsertion sociale et dans la réinsertion professionnelle. Ce sont des publics qui ont quitté la société finalement depuis trop longtemps et on sait que pour permettre une vraie insertion professionnelle, il faudra les accompagner parfois au-delà d'un an ou de deux ans. Et donc nous proposons un centre d'hébergement et de réinsertion professionnelle et nous proposons un contrat prioritaire de réinsertion qui sera mis en œuvre avec les travailleurs sociaux, avec les associations communales qui œuvrent dans ce domaine et nous souhaitons finalement proposer un schéma d'insertion le plus ouvert possible pour vraiment permettre à ce que cette partie de la population qui n'a pas encore touché le bénéfice des actions de redressement puisse aussi, elle, trouver sa place dans la société polynésienne.
Sandré Lévy-Agami, puisqu'on parle des SDF, dans le programme du Tahoeira, vous proposez de votre côté de développer plusieurs centres d'accueil tels que ça avait été fait. En tout cas, il y a un centre d'accueil qui va être créé à Papeete.
Avant d'arriver à ce sujet, je voudrais juste rappeler que tout le monde connaît la pyramide de Maslow. À partir du moment où on ne peut pas assurer le minimum vital à quelqu'un, il ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc le minimum vital, c'est de pouvoir se nourrir, se loger et être en sécurité. Aujourd'hui, une personne sur deux en Polynésie française fait partie du bas de cette pyramide. Donc à partir de ce constat, quand on est un responsable politique digne de ce nom et qu'on est au courant de la réalité des gens, on prend des mesures. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons aux Polynésiens ces 12 mesures d'urgence qui vont en effet coûter 20 milliards, comme je le disais, mais qui vont se retrouver dans l'économie réelle, puisque 50 000 francs pour la mère au foyer, ça veut dire du pouvoir d'achat retrouvé, des consommateurs beaucoup plus nombreux, les commerçants vont pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires également. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de faire redémarrer cette machine économique, ce système de consommation, tout en parallèle en développant les grands projets que nous avons développés lors des élections de 2013 et qui malheureusement n'ont pas été poursuivis.
Alors on va y venir juste sur la question des centres d'accueil pour les SDF.
Nous avons élu en 2014 et notamment par le président Fritsch et c'est vraiment notre grand regret.
On va y revenir. Juste vous poser une question, il y a environ 5 minutes, sur les questions des centres d'accueil pour SDF.
Alors, nous avons déjà réalisé un premier centre d'accueil. Nous l'avons construit à Tipperary. Il s'avère que ce centre d'accueil est débordé. On pensait que le président actuel, en 4 ans, aurait construit un deuxième centre d'accueil puisque c'était prévu. Il ne l'a pas fait. Mais bon, ne revenons pas sur ça. Ce qui est important, c'est que nous avons constaté parmi les SDF que nombre nombre d'entre eux sont salariés et qu'ils vivent dans la rue parce que les transports en commun sont trop chers. Un papété, tautira papété, c'est 450 francs aller, 450 francs retour, ça fait 900 francs par jour, par salarié. C'est beaucoup trop lourd à porter. Donc, beaucoup d'entre eux préfèrent, enfin, en tout cas, un certain nombre d'entre eux préfèrent rester à Papeete et dormir dans les rues de Papeete du lundi au jeudi et rentrer sur Tautira ou sur la Presqu'île, en tout cas dans leur famille, le week-end. Donc c'est vraiment cette préoccupation-là qui nous a conduit à proposer le truck à 100 francs à l'aller et au retour. On a posé la question à SDF pour leur demander si on mettait le truck à 100 francs, le bus à 100 francs, est-ce que vous allez rentrer chez vous? Ils nous ont répondu oui, à 100 francs, ça fait 200 francs par jour. Donc, on peut tenir ça au niveau de notre budget familial.
Comment on fait justement le truck à 100 francs? On subventionne?
Alors, il y aura un appel d'offres qui va être passé. Il y aura un marché public, il y aura une délégation de services publics. Il y aura, un opérateur qui sera choisi selon les règles prescrite par la loi, et il y aura une partie en effet de ce dispositif qui va être subventionné par le pays. Ça existe dans d'autres pays, c'est un choix politique, et vous savez que dans un budget familial, ce qui pèse le plus, c'est le logement, le transport, l'alimentation. À partir du moment où en matière d'alimentation, la cantine sera gratuite, on sait que un repas par enfant, c'est 500 francs. Multiplié par 20 jours, ça fait 10 000 francs, donc d'économiser par famille et par enfant. Donc ça va redonner du pouvoir d'achat aux familles. Le transport à 100 francs, ça va redonner du pouvoir d'achat à la famille qui va pouvoir dépenser son argent autrement et faire fonctionner les commerces et les entreprises locales de façon différente.
Oui, sur la question du transport, il y a également un point du programme du Tapura avec les transports, le programme en tout cas transport en commun gratuit, donc gratuité pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les étudiants. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place, sachant les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui pour connaître les tarifs différents, en tout cas, qui sont pratiqués dans les bus à Tahiti?
C'est un choix social qui se met en place beaucoup plus facilement que le fait d'octroyer le transport quasiment gratuitement à 100 francs. Mais au-delà de ce point, moi, je ne fais jamais de polémique pour la polémique, mais j'ai une vraie question à poser à Sandra, là, puisque je l'ai écouté développer sa partie concernant le transport. Elle dit, on a interrogé les SDF et ils nous ont dit, si on mettait le transport à 100 francs, on rentrerait chez nous. Mais un SDF, c'est un sans domicile fixe. Il a justement pas de domicile.
S'il en a,
et donc, se dire que ce sont des gens qui sont salariés, qui peuvent rentrer chez eux et qui à 100 francs rentreraient chez eux. Moi, j'en vois des SDF aussi sur les trottoirs qui font la manche pendant la journée. Mmh. Et ils travaillent pas pendant la journée, ils font la manche. Donc, il faut pas dire n'importe quoi aussi.
J'ai pas dit que tous les SDF étaient salariés. J'ai dit que certains d'entre eux le sont et le sont à cause du coût du transport en commun. Donc ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît, monsieur Loré.
Je ne le fais jamais. Donc d'accord. C'était une parenthèse. Maintenant, concernant les actions sociales que nous proposons, effectivement, nous proposons la prise en charge du transport pour les personnes âgées, pour les jeunes en situation d'insertion, parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens de financer le transport, notamment dans le cadre de stages ou de stages de formation ou d'emploi de court terme auxquels ils peuvent prétendre, et concernant les personnes handicapées aussi. Donc c'est un choix, et comme je l'ai indiqué, autant pour la mandature qu'il se termine, le gouvernement avait fait le choix de la priorité sur les actions de redressement des finances publiques, autant pour cette mandature, et compte tenu du fait que la situation économique et financière se soit considérablement améliorée, nous avons fait le choix de mettre le sujet social au cœur de l'action du gouvernement. Et effectivement, les moyens qui ont été dégagés depuis 2 ans par le gouvernement permettent de financer ce type de mesures. Mais ce que nous ne souhaitons pas, c'est de retomber dans une forme de clientélisme avec des pratiques politiques qui visent à dire aux citoyens, tout sera gratuit, 50 000 francs pour rester au foyer, 100 francs le truck que vous alliez à Faa'a ou à Taravo, tout ça, non, ça n'existe pas, ça n'est pas sérieux. Nous souhaitons souhaitons au contraire aider les jeunes en situation de recherche d'emploi, aider les familles, et nous proposons un plan concernant la famille qui a fait l'objet de nombreuses concertations avec 130 mesures qui ont commencé à être mises en œuvre concernant les jeunes en délinquance, concernant les bourses pour prendre en charge une partie des études. Et c'est un vrai programme social que nous proposons, et toutes les mesures figurent dans ce programme sur lequel nous faisons campagne depuis quelques semaines déjà.
L'un des points de votre programme justement sur le social, c'est, parce que vous en parliez, le couvre-feu pour les enfants et les jeunes adolescents. Comment est-ce qu'on l'applique concrètement, puisque les expériences de couvre-feu par le passé ont montré que c'était quand même assez difficile de le faire respecter partout, en tout cas sur la zone urbaine.
Oui, c'est compliqué. C'est certain. Certaines communes en métropole l'ont mis en œuvre dans certains cas. C'est pas une proposition qui est sortie du chapeau. C'est une des propositions qui, parmi les nombreuses propositions qui ont été évoquées dans le cadre de ce travail qui a été fait sur la famille. Et lorsque l'on voit des jeunes adolescents sur la route après 9h, après 10h du soir en vélo, je parle même pas du risque d'accident, on voit toutes les dérives auxquelles on peut arriver. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette mesure qui sera mise en place bien évidemment avec les services de l'État, bien évidemment avec les communes. C'est compliqué à mettre en place, mais je pense que c'est aussi un signal que nous envoyons vers ces jeunes adolescents, vers les familles, pour plus de responsabilité. Et si on veut sortir de ces problématiques de délinquance, de toxicomanie qui deviennent monnaie courante, je pense qu'il faut que chacun participe à sa place à ce travail.
Alors, on va rester dans le domaine du social pour parler de la réforme de la PSG avec Sandra Lévy-Agami. Vous, le Tahir, en tout cas, promet, c'est dans les 12 mesures d'urgence, de réformer la PSG sans toucher aux paramètres, donc sans toucher à l'âge de départ à la retraite à 60 ans et à la durée de cotisation. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous êtes sûr que seul l'emploi peut permettre de générer assez de cotisations pour sauver en tout cas la protection sociale généralisée?
Bon, tout d'abord, je voudrais dire que s'il y a clientélisme aujourd'hui, c'est bien du gouvernement actuel, puisque les CAE passent par les maires. Nous avons l'intention de faire en sorte que de revenir au système qui est le système qui doit être mis en place, et que le CAS que nous allons proposer, le contrat d'apprentissage salarié, passera bien évidemment par les services du CEFI et fera en sorte que les personnes qui vont travailler durant un an seront déclarées à la CPS et pourront prendre cette année d'expérience et la mettre à profit et avoir une retraite. Donc du coup, j'arrive à votre
sujet. Ce que vous dites, c'est qu'il y a moins de clientélisme quand on passe par un service du pays que quand on passe par les maires.
Oui, d'accord. C'est clair. Parce que le CAE, quand nous avons mis en place, il était hors de question qu'il passe par la case mairie. Et aujourd'hui, au motif que le CEFI, soi-disant, aurait été délocalisé vers les mairies, on se rend compte, par les usagers qui nous en parlent, que si le maire n'a pas donné son avis sur certains CAE, eh bien les administrés n'ont même pas la possibilité de déposer ce dossier directement au CEFI, puisqu'il doit passer par la case mairie. Mais on va pas relancer la polémique, je voulais juste fermer là-dessus. Vous dire que, d'abord, le Tahuera, pour cette... moi, j'avoue que j'ai été scotchée par les propositions qui ont été faites par le président Floss, parce que c'est... Alors, autant on a beaucoup parlé de développement économique ces 30 dernières années, autant cette année, sur cette élection-là, le cœur de notre programme, c'est la famille. Et c'est vraiment pour moi une chance qu'on puisse mettre les moyens au niveau de la famille. Si la famille va mieux, tout va mieux. Si un père peut rentrer le soir, retrouver sa famille, bien évidemment, ses enfants ne seront pas en train de traîner sur la route le soir en vélo et se mettre en danger. Alors on préconise, on propose, et même je dirais même on s'engage à mettre en place une école des parents, à accompagner les familles, parce qu'on a de plus en plus de jeunes parents, et on devient parent à 14-15 ans, on est encore un enfant, et on fait soi-même un enfant, donc c'est très difficile de pouvoir accompagner un enfant quand on est soi-même un enfant. Donc cette école des parents, c'est quelque chose d'important. Bien évidemment, renforcer le planning familial, parce que là aussi, il n'y a plus rien en la matière depuis un bon moment. Et vous dire que pour ce qui concerne la PSG, nous sommes contre la loi qui a été déposée par le gouvernement Fritsch, parce que au lieu d'avoir deux critères qui puissent être distincts, on avait deux critères qui étaient additionnés. Aujourd'hui, la retraite
les deux critères, ce sont l'âge de départ et la durée de cotisation.
Aujourd'hui, la retraite, la l'âge de départ à la retraite est de 60 ans ou 35 ans de cotisation, eux ont exigé qu'on passe à 62 ans minimum parce que ça pouvait changer après. Et 38 ans de cotisation. Donc pour nous c'est pas possible puisque on a alors le comment vous dire ça c'est un peu la solution de facilité telle que nous la voyons puisqu'on se dit puisqu'on a un vivier de salariés qui se rétrécit et que ce sont ces salariés qui doivent alimenter les retraités actuellement partis à la retraite, eh bien faisons les travailler plus longtemps, cotiser plus finalement pour gagner moins. Et nous, on dit, ben, à ce moment-là, puisqu'il y a le vivier de salariés qui se rétrécit, faisons en sorte d'élargir cet assiette de salariés en faisant du développement économique. Mais on peut pas lancer les grands travaux et Mahana Beach du jour au lendemain, puisque les travaux, malheureusement, ont été arrêtés par le gouvernement actuel il y a déjà plus de 3 ans. Alors, on se dit, il faut absolument mettre en place ces mesures d'urgence pour faire en sorte que, très rapidement, les Polynésiens retrouvent du pouvoir d'achat et que, parallèlement à ça, on puisse proposer aux Polynésiens de l'emploi durable.
Donc, pour nous, c'est le CAS, l'emploi pour relancer les cotisations et justement pour permettre à la PSG de sortir de la tête de l'eau.
Ce n'est qu'un pansement et d'ailleurs on l'a mis sur notre programme d'urgence. C'est un programme d'urgence sur 3 ans, le temps que les grands chantiers redémarrent.
Oui, Laurie, est-ce que c'est possible de sauver la PSG sans toucher aux paramètres, en laissant les paramètres tels qu'ils existent, retraite à 60 ans et durée de cotisation à 35 ans?
Non, c'est impossible. Et lorsque vous posez la question aux gens qui travaillent sur ce sujet depuis des années, quel que soit leur bord politique, ils vous le disent bien. Lorsque vous regardez d'autres pays, et même la métropole, où on s'oriente vers une retraite à 63, 64, 65 ans, dans certains pays c'est un peu plus. Alors c'est vrai qu'il faut accompagner, il faut mettre en place tout ça progressivement, mais c'est impossible. Je vais réouvrir une parenthèse que Sandra a fermée sur le clientélisme, parce qu'elle a porté des accusations que je trouve infondées sur l'attitude des communes, et notamment concernant le CAE. Ce ne sont pas les maires qui attribuent les CAE, c'est
non,
le gouvernement.
Pas, les
maintenant,
j'ai jamais dit
maintenant
qu'il
dans la relation entre le pays et les communes, il y a quelque chose, j'ai été ministre des Finances sous Gaston Flosse, et sous Édouard Fritsch. Et il y a une chose qui a radicalement changé lorsque le président Fritsch est devenu président de la Polynésie, c'est cette relation avec les communes, qui auparavant étaient dans une situation de dépendance du gouvernement et du président. Pour la première fois, notamment au travers de la délégation à la promotion des communes, chaque commune qui avait un projet d'investissement qui allait dans le sens de l'intérêt des populations a été aidée. Si vous regardez le journal officiel entre septembre 2014 et aujourd'hui, regardez les communes qui ont été aidées dans leur projet. Vous allez voir FAA. Pour des projets sportifs, pour des projets d'infrastructures, vous allez voir Outouroi, vous allez voir de nombreuses communes qui ne soutiennent pas le gouvernement, et c'est la raison pour laquelle les maires ont réellement apprécié ce changement d'attitude à leur égard. Et c'est, je le dis, c'est un changement majeur, et nous souhaitons mettre en place ce type de changement dans la relation entre le gouvernement et l'ensemble des acteurs, les ménages, les acteurs économiques, et faire en sorte qu'il n'y ait plus cette dépendance, finalement une forme de vassalisation des acteurs économiques au pouvoir politique. C'est pour ça que nous avons baissé le taux de l'impôt sur les sociétés, que nous souhaitons baisser et poursuivre le mouvement de baisse des droits d'importation, de l'ensemble des impôts et des taxes, parce que qu'est-ce qui va faire le développement de ce pays dans le futur? C'est pas Gaston Flosse, Émile Vernaudan ou je ne sais qui, c'est la capacité de tous nos acteurs et notamment les jeunes à se lancer dans des projets. C'est pour ça que nous avons mis en place une prime pour les jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail et qui souhaitent se lancer dans une activité, mais c'est compliqué lorsqu'on n'a pas les capitaux, et nous essayons d'accompagner toutes les forces vives qui veulent faire ce travail et faire en sorte que tout cela se fasse normalement sans avoir à solliciter tel président, tel ministre. C'est le sens de toute la démarche qui a été initiée depuis 3 ans maintenant. Et on le voit, ça porte ses fruits. Tous les clignotants économiques sont au vert, même si sur le plan social, un certain nombre de Polynésiens n'ont pas encore trouvé leur place dans notre société. Mais on sort de 10 ans d'instabilité politique et surtout d'absence de direction économique et sociale. Et deux hommes, finalement, dans cette période clé de la Polynésie entre 2004 et 2013, ont essayé de s'arracher le pouvoir. sans savoir exactement vers où il souhaitait amener le pays. Gaston Flosse, car on le connaît tous avec ses qualités et ses défauts, Gaston Flosse ne peut pas imaginer la Polynésie sans lui à sa tête. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Et de l'autre côté, on a quelqu'un comme Oscar Temaru qui a un combat légitime, celui de l'indépendance, mais lorsqu'on lui demande concrètement comment on fait pour financer nos routes, nos infrastructures, nos aéroports, notre PSG, il ne sait pas. Il nous dit, devenons indépendants et ensuite on verra. Ce n'est pas un projet. Et donc on a eu ces deux visions ou absence de vision de développement de la Polynésie, concentrée sur le pouvoir pendant 10 ans. On en a payé le prix. Tous les Polynésiens ont payé le prix de cet affrontement idéologique. Depuis 3 ans, avec Édouard Fritsch, nous essayons de changer ce modèle économique et surtout changer les philosophies. Et lorsque j'entends les mesures de Taouera, ce sont des mesures éminemment populistes. Vous posiez la question, est-ce qu'on peut réformer le système de retraite sans changer les paramètres? Je vous le dis, non, c'est impossible. Donc, on connaît la technique de Taouera. Oui, on va pas changer l'âge de départ. Oui, on va pas changer les paramètres. Et puis, lorsqu'on arrivera, on le fera. Mais tout ce qu'on souhaitait, c'est gagner le pouvoir. Il faut pas tromper les gens. Il faut pas tromper les citoyens. De la même manière, j'ai des amis au Tavini, je connais bien Mouetei, lorsqu'on lui demande quel est le projet économique pour la Polynésie, ben c'est l'aéroport des Marquises. Alors c'est bien gentil, sauf que pour développer un aéroport international, il faut au minimum 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait en attendant 10 ans que tout ça se mette en place? Dans notre cas, notre slogan, et vous l'avez dit, il est simple, continuons ensemble. Continuons pourquoi? Pour les résultats que nous enregistrons, d'ores et déjà, la situation économique va mieux. J'entends Gaston Flosse parler des grands projets. Il n'est pas candidat. Par contre, il va proposer Jeffrey Salmon à la présidence du pays et Théoura Hérité à la présidence de l'Assemblée. Et dans 2 ans, il va dissoudre l'Assemblée. Il va demander 54 milliards à l'État. Non, mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Polynésiens. Je l'ai dit, on sort de 10 ans d'instabilité. On a pour la première fois un pays qui redécolle, ne replongeant pas dans ses vieilles lubies.
Sandra Lévy-Agami.
Écoutez, je suis désolée de ce que je viens d'entendre parce que la même personne disait exactement le contraire en 2013 quand nous avons fait campagne. Et il a même participé à la rédaction de notre programme clientéliste, enfin qu'il taxe de clientéliste aujourd'hui. Donc, je suis étonnée de ce type de propos. J'ai pas envie de relancer la polémique. Je crois que chacun jugera. Moi, ce que je retiens, c'est que les gens sont en difficulté. Je crois qu'il faut arrêter de se disputer pour dire c'est de la faute à qui. Quand je l'entends dire que Gaston Flosse n'est pas un visionnaire, c'est quand même lui qui le clamait haut et fort. Il a même été son vice-président en 2013. Maintenant, voilà, il est responsable de ses propos et je le laisse responsable de ses propos. Moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans la polémique. Je crois que ce qui intéresse aujourd'hui les Polynésiens, c'est pas ni Flosse, ni Fritsch, ni qui que ce soit, c'est d'élire des gens qui vont travailler et qui auront des résultats. Nous, on a la force de l'expérience. Tout ce qu'on a dit, on l'a fait. On nous a dit que l'hôpital était impossible à mettre en place, il coûterait trop cher. Aujourd'hui, on a un hôpital digne de ce nom qui permet d'éviter les évasins des Polynésiens à l'extérieur de la Polynésie française. On nous a dit qu'une compagnie aérienne, c'était impossible. On l'a fait. On nous a dit que, voilà, je peux vous citer énormément de projets comme ça, pharaoniques, taxés de pharaoniques, qui aujourd'hui profitent aux Polynésiens. TNTV, c'est la même chose. Gaston Flosse est quand même celui, et je finirai là-dessus parce que je suis pas venue pour parler de lui aujourd'hui, il est même pas candidat sur la liste. Vous dire que la communauté chinoise aujourd'hui en Polynésie, si elle a la nationalité française, si elle a été naturalisée, c'est parce qu'un jour Gaston Flosse justement a pris son téléphone et a appelé le ministre de l'époque de l'agriculture sous le gouvernement Pompidou qui était Jacques Chirac pour faire en sorte que les Chinois deviennent français à un moment où en Nouvelle-Calédonie les Vietnamiens étaient mis dans un bateau pour être rapatriés au Vietnam. Donc ça c'est aussi le bilan du Taouera et de Gaston Flosse, faire en sorte que les communautés puissent vivre en harmonie en Polynésie française. Je finirai sur la PSG en vous disant que c'est vraiment une situation préoccupante ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je pense qu'il y a un ras-le-bol de la population, qu'on ne peut pas l'ignorer et qu'on a une obligation de résultat par rapport au prochain mandat. Donc je souhaite vraiment que les Polynésiens prennent conscience du fait que Moi, je dis, il faut pas regarder à la rigueur qui sont les personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait, etc. À titre personnel, vous savez, quand on est chef d'entreprise, on embauche quelqu'un, on va pas forcément aller regarder son casier judiciaire, etc. Si on a un bon plombier, on se dit, celui-là, c'est un super plombier, et ben je l'embauche. Là, c'est la même chose pour les élus. Faisons en sorte de voter pour des élus qui travaillent, de voter pour des élus compétents et de faire en sorte d'avoir une majorité absolue complètement stable et d'éviter l'instabilité qu'on a connue avec des élus qui, dans le dos des électeurs, se sont entendus entre eux en 2014, alors qu'au départ, notre président, nouveau président Édouard Fritsch, avait été élu par les voix du Tarawera. Donc je referme la parenthèse là-dessus. Tout ça pour vous dire que la situation des Polynésiens nous préoccupe. Vous pouvez taxer notre politique de ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que vous venez de là. Et je regrette vraiment les propos qui ont été tenus, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Polynésien. Vous savez, nous, on a une situation confortable. Moi, en dehors de la politique, j'ai une situation confortable. Donc, le fait que je sois pas élue, c'est pas ça qui va changer ma vie. Mais quand je vois mes enfants qui ont 19 ans et 16 ans, je me dis que j'aimerais bien qu'ils vivent en Polynésie. Ils soient pas obligés, comme certains parents aujourd'hui, d'accepter que leurs enfants partent travailler à l'extérieur de la Polynésie française.
Il est 12h43, on va marquer une courte pause dans ce grand débat donc avant le premier tour des territoriales, pardon. On se retrouve dans quelques instants pour vous faire réagir sur des sujets d'actualité et de société cette fois-ci.
Radio 1, territorial
53-33.
Radio 1, territorial 2018. Les grands débats.
De retour dans les grands débats avec Antoine Samoyo et ses invités. Nous sommes en direct sur Radio 1 et -FM.
Avec Sandra Lévy-Agami pour le Tahuera et Nui Haulore pour le Tapura. On consacre cette deuxième partie donc à des thèmes de société, d'actualité. On a continué un peu le débat pendant que vous étiez, pendant la pause en tout cas. Parce que je vous rappelle, on est en direct, en live sur Facebook, sur Radio 1 et -FM. Merci beaucoup Vaïté Olalipambrin pour ce live d'ailleurs. On parlait de la question de la probité. Et ce que vous nous disiez, Nui Haulore, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Gaston Flosse peut se mettre en avant alors qu'il est aujourd'hui inéligible.
Je répondais surtout à la déclaration de Sandra, qui disait il faut pas parler de Gaston Flosse, il est pas candidat. Et je disais, il est pas candidat, il est sur les affiches et il est à la télé. Et il vient dire aux Polynésiens, comme je suis inéligible et donc je ne peux pas me présenter, je vais désigner un tel à la présidence du pays, je vais désigner une telle à la présidence de l'Assemblée, dans 2 ans je vais dissoudre l'Assemblée, dans le même temps je vais demander 54 milliards à l'État pour le nucléaire, en même temps je vais demander le statut d'État associé, mais il n'est pas candidat, mais il est omniprésent. Et c'est pour ça qu'on parle de probité, il y a surtout la loi et il y a surtout un certain nombre de personnes qui sont inéligibles, qui ne peuvent pas se présenter et d'autres qui sont éligibles sur l'ensemble des listes et chacun vient faire sa proposition et moi ça me choque, et je le dis clairement, que quelqu'un comme Gaston Flosse qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais qui n'est pas éligible, vienne à ce point monopoliser cette partie de la campagne et surtout infantiliser une partie des membres de son équipe en disant un tel sera là, un tel sera là, je vais demander tant à l'État, je vais changer le statut, mais c'est une élection sérieuse.
Juste avant de vous faire répondre, Sandra Lévy-Agami, ça ne vous choque pas en revanche qu'il y ait des personnes qui aient déjà été condamnées pour des atteintes à la probité, pour des détournements de fonds publics, pour des prises illégales d'intérêt sur la liste du Tapura qui se présente aujourd'hui pour accéder à ces fonctions et être aux responsabilités du pays?
Moi, je considère qu'il y a une loi et qu'elle s'applique à tout le monde. Et dans le cadre de cette loi, chaque affaire est jugée par un juge sur un principe qui est essentiel dans la Constitution, qui est l'individualisation des peines. Et c'est le juge qui fixe les peines. Et si un juge considère que dans telle ou telle affaire, une personne n'est plus en capacité de se présenter aux élections, eh bien, elle le déclare inéligible. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, dans chacune de ces peines, des personnes ont été condamnées, mais les juges ont considéré que ces personnes étaient éligibles. Moi, je suis législateur. Je ne suis pas juge. Et donc, je respecte le partage de pouvoir qui existe dans la Ve République depuis qu'elle existe.
Sandra Lévy-Agami.
Écoutez, encore une fois, je suis étonnée de ce que j'entends, parce qu'en 2013, il n'y avait pas mieux que Gaston Flosse. Pourtant, il avait été inéligible avant.
Il était éligible
avant.
En 2013, Gaston Flosse.
Non,
il était éligible.
Je n'ai pas coupé, Nui Hao.
Si,
on a peu de temps, là.
Ah, tu es la première à m'avoir coupé. Moi, je ne t'avais pas coupé avant.
Dernière,
maintenant que tu me coupes la parole, je m'autorise à te couper la parole.
Okay, tout,
je
m'excuse, alors. Apparemment, je t'ai fâché. Donc, si je t'ai fâché, je m'en excuse.
Mais non, tu ne fâches jamais.
Je voulais te dire que quand même, le 17 janvier 2017, tu avais déclaré à Polynésie Première, l'ancien président faisait de bons choix de recrutement. Donc je pense que tu étais sincère quand tu l'as dit, et je pense également que l'ancien président a fait de bons choix de recrutement en recrutant Jeffrey Salmon et toute l'équipe qui est sur notre liste. Moi, je rentrerai pas dans la polémique parce que je crois que ça n'intéresse personne. Ce qui est important, c'est l'avenir de notre pays, l'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos entreprises. Il faut qu'à l'issue de cette élection, les Polynésiens puissent avoir des réponses concrètes, des actions concrètes par rapport à leurs attentes. Et leur première attente, c'est d'avoir un toit, d'avoir à manger et d'avoir une possibilité d'avoir un emploi durable. Donc nous, on est sur ça. Les grands projets, on va les sortir de terre. On nous a dit que c'était impossible d'avoir ATN et tout le reste. On l'a fait. Donc Marana Beach verra le jour. Mais il nous manque juste une chose aujourd'hui, c'est d'avoir le soutien des Polynésiens par rapport à cette élection. Nous savons comment nous allons financer, nous savons comment nous allons nous organiser. À l'époque, on l'avait fait avec Nui Haoloré. Son chemin a divergé, je respecte son choix, c'est le sien. Le mien n'a pas divergé, je soutiens le Tarawera et je veux absolument que notre Polynésie se développe dans l'intérêt de tous les Polynésiens et que chacun trouve sa place, et c'est l'objectif du Tarawera. Donc si vous voulez du changement, si vous voulez des réalisations concrètes et non des propositions qui n'ont pas été tenues depuis 4 ans, votez Tarawera Huiratira.
Il y a un dernier sujet que je voudrais qu'on aborde avant de finir cette émission sur un thème de société justement dont on parle assez peu finalement dans les programmes. La Dépêche consacrée à un dossier en tout cas cette semaine là-dessus, elle a noté qu'il n'y avait qu'une seule fois le mot ICE dans l'ensemble des programmes politiques des 6 listes en lice. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est un sujet qui mérite qu'on s'en préoccupe, Nouria Loret?
Très important, c'est un fléau. C'est un fléau pour la jeunesse, un fléau pour la société, et là on a besoin d'une participation active de l'État, puisque c'est une compétence de l'État. Je sais que les douaniers font un vrai travail pour mettre un terme à ces trafics qui ont lieu. Il faut que chacun participe. Encore une fois, c'est une compétence de l'État, et nous essayons de, chaque fois que c'est possible, de demander à l'État d'augmenter ses ressources sur ce sujet et de faire en sorte que ce fléau, encore une fois, et j'utilise le terme haïtien, que ce fléau soit stoppé.
Pour vous, il n'est pas possible de faire de prévention au niveau du pays pour essayer d'endiguer ce phénomène?
La prévention, on en fait dans tous les domaines depuis des années et des années. À un moment donné, il faut aussi de la répression, surtout sur des sujets aussi graves que cela. C'est quelque chose qui est dévastateur pour la jeunesse, individuellement et collectivement. C'est sûr qu'il y a de grosses sommes d'argent derrière ces trafics. C'est pour ça que la justice et les forces de police doivent intervenir le plus en amont possible. Qu'il faille faire de la formation, c'est certain, et de la prévention, c'est certain, on en fait. J'ai parlé du plan sur la famille, 130 mesures qui ont été imaginées, proposées avec des gens de tous horizons qui sont venus participer, aussi des magistrats, aussi des personnels des forces de l'ordre, des avocats, tous ceux qui travaillent sur ces sujets ont fait des propositions. Certaines ont commencé à être mises en œuvre. On parlait du couvre-feu, c'est l'une des mesures qui est la plus mise en avant, mais il y a aussi beaucoup d'autres mesures, et notamment celles qui concernent la prévention. Mais c'est un fléau majeur qu'il faut stopper le plus rapidement possible.
Sandra Elviagami, sur l'ICE, est-ce que le Tarawera a une proposition, un plan ou des idées en tout cas, et est-ce que vous pensez que c'est un sujet majeur de société pour ces prochaines années?
Alors, le Tarawera Huiratira, en effet, s'est penché sur ce sujet, puisque en faisant les quartiers, on se rend bien compte que la prostitution s'est développée pour pouvoir justement avoir ces doses d'ICE, hein, que parallèlement à ça, les consommateurs de drogue habituelle comme le Pacalolo, beaucoup d'entre eux sont en train de s'orienter vers l'ICE. L'ICE était à 100 000 francs le gramme il y a encore 2-3 ans, il est monté à 120 000, 150 000 francs le gramme. Donc on voit bien qu'il y a eu de la répression sur le terrain, il y a eu des saisies, donc du coup il y a moins de possibilités d'en consommer et les prix ont flambé. Mais ce qui est clair, c'est que ces trafics se développent parce qu'il y a aussi une misère qui se développe, et en encadrant davantage les jeunes, en les accompagnant par le sport, en développant le centre de toxicomanie, c'est ce que nous avons inscrit dans notre programme, en mettant les moyens pour la prévention, on va pouvoir mieux les accompagner, et en accompagnant également les familles. Aujourd'hui, regardez à la télévision, il y a zéro spot, ni contre le pacalolo, ni contre l'ice, ni contre toute forme d'addiction. Nous sommes aussi très sensibilisés par rapport à l'addiction aux écrans, tout ce qui est téléphone portable et tablette, parce qu'il y a quand même une partie de notre jeunesse qui ne fait plus que ça aujourd'hui, et on connaît les ravages de l'addiction, d'une telle addiction sur le cerveau humain. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous préoccupe, et nous avons un plan d'action pour des financements qui ont déjà été identifiés pour faire en sorte de lutter contre ces addictions.
Je voulais vous laisser, parce qu'on arrive au terme de cette émission, 30 secondes à une minute tous les deux de carte blanche pour conclure un peu ce débat. Noé Hobleret.
Sans entrer dans le détail du programme, on a eu l'occasion d'en discuter un peu. C'est vraiment des élections importantes pour ces 5 prochaines années. On est sorti déjà de 10 ans d'instabilité, d'absence de direction économique, sociale. La Polynésie a payé le prix de cette inconstance politique. Nous sommes dans une stabilité depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Les choses avancent bien, les clignotants sont au vert, même si tout n'a pas encore été fait, et c'est notre proposition de continuer ensemble pour poursuivre le redressement de la Polynésie et faire en sorte que nos enfants aient un meilleur avenir.
Sandra Léviagami pour le Tahuera.
Dire aux Polynésiens que, enfin, je souhaite au nom du Tahuera Huiratira, de son président, de toutes les personnes qui sont sur la liste du Tahuera aujourd'hui, qui se proposent de faire partie de cette équipe qui va gouverner le pays grâce à vous, vous dire que fort de notre expérience, nous souhaitons vous mettre nous mettre à votre service pour faire en sorte que toutes ces familles qui aujourd'hui sont contraintes de vivre à 30 dans une famille puissent avoir enfin leur foyer, faire en sorte que ces papas et ces mamans, ces grands-parents qui sont obligés de prendre en charge des familles entières de leurs enfants et de leur toit puissent enfin avoir une vie plus acceptable et plus tranquille, faire en sorte que ces familles puissent avoir un avenir dans le sens où ils vont pouvoir se retrouver en cellule familiale beaucoup plus restreinte dans un logement avec un emploi qui pourra assurer leur bien-être, et vous dire que le Tahuera Huiratira n'a pas changé d'un pouce, il reste ancré dans la République française. Nous ne sommes pas d'accord avec les décisions de Paris, ce n'est pas pour autant que nous dénonçons nos accords avec Paris. Nous sommes ancrés dans un statut d'autonomie qui est appelé à évoluer, c'est prévu à l'article 1er du statut d'autonomie, donc nous allons négocier par la suite avec Paris, si vous nous donnez votre confiance, pour régler également le problème foncier, régler tous ces problèmes qui se heurtent aux compétences de l'État. Maruru.
Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas pour cet échange. Je vous rappelle que cette émission, elle est à retrouver en podcast dès cet après-midi sur le site radio1.pf. Elle est aussi à retrouver sur Facebook Live. Merci beaucoup Vaïté Ourar Ipambrin pour ce Facebook Live, sur les pages Facebook de Radio 1 Tahiti et Tiare FM. La semaine prochaine, c'est Oscar Temaru et Tauhiti Nena qui seront avec nous pour le troisième grand débat à l'avant-veille du premier tour, je vous rappelle, des élections territoriales. Prochain rendez-vous avec l'information sur Radio 1 et Tiare FM, c'est à 15h30 cet après-midi. Très bon appétit à tous.
Radio 1, Territorial 2018. Les grands débats.